Chers collègues, ou plutôt chers anciens collègues, bonjour. J'aurais aimé être avec vous pour cette formation qui était initialement prévue à Draguignan. Malheureusement, les choses en ont décidé différemment et le confinement nous oblige à rester chacun chez nous. Mais heureusement, Céline Berthaud de Cinéma du Sud a une très bonne idée, c'est celle de vous adresser par Internet non seulement les documents qui étaient prévus, mais aussi un enregistrement audio qui vous permettra d'être guidé d'une part dans les 10 documents et d'autre part dans les quelques séquences que vous allez recevoir dans votre dossier. Tout d'abord, j'espère que vous y prendrez du plaisir et d'autre part, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas hésiter à me contacter en cas de besoin, dans la mesure où vous pouvez avoir des questions. Mon adresse mail figure évidemment dans le dossier, vous la trouverez dans le diaporama qui est réservé à chacun des 2 films. Vous pouvez m'écrire, j'insiste. Mais n'oubliez pas de mentionner formation de Draguignan parce que sinon je risque de ne pas lire votre message. N'hésitez pas et en cas de besoin. Donc je suis Bruno Vermogoschi, j'étais professeur de lettres classiques et j'ai terminé ma carrière en enseignant le cinéma dans le BTS audiovisuel du lycée Carnot de Cannes et en classe préparatoire aux grandes écoles CPGE littéraires, toujours au lycée Carnot. Cette classe préparatoire du lycée Carnot avait vocation à préparer au concours de l'ENS Lyon et l'option artistique qui m'était dévolue était donc l'option cinéma. N'hésitez donc surtout pas, j'insiste, à me contacter. Vous avez dans le dossier qui vous est adressé plusieurs éléments distincts et je voudrais commencer par vous présenter le sous-dossier numéro 1 qui s'intitule Éléments théoriques. Vous pouvez le sauter si vous vous sentez suffisamment armé pour la question. Vous pouvez naviguer dans le dossier comme bon vous semble et il n'y a absolument aucune nécessité de respecter la chronologie. Dans cette partie numéro 1, mon but est de vous donner quelques indications, que vous soyez aguerri dans l'étude de l'analyse filmique ou au contraire que vous soyez totalement néophyte. Il n'y a aucune honte à demander des questions, à poser des questions, pardon, sur ce point, dans la mesure où, à la base, nous ne sommes pas des spécialistes en cinéma. Alors, dans un premier temps, je vous ai proposé une bibliographie intitulée Bibliographie Cinéma Octobre 2020, et c'est une bibliographie assez complète qui dépasse le cadre de notre formation, parce qu'il m'a semblé intéressant de vous donner quelques pistes qui pourraient vous amener vers des chemins de traverse qui vous plairaient plus ou moins, j'espère. En revanche, il y a 2 ouvrages fondamentaux, me semble-t-il, qu'il faut que vous possédiez. C'est d'une part, Cinéma, la grande histoire du 7e art, de Laurent Delmas et Jean-Claude Lamy. Il y a une nouvelle édition qui date de 2020 et l'ouvrage, qui est pourtant abondamment illustré et très agréable à feuilleter, ne coûte que 22,95 €. C'est un ouvrage que vous pouvez utiliser aussi bien en tant que grand public ou en tant que spécialiste. Cet ouvrage-là, mes collègues et moi donnions à le lire à nos étudiants, qu'ils soient de BTS ou de classe prépa. C'est très commode de s'y retrouver pour situer une œuvre dans un cadre historique particulier ou dans un genre ou un sous-genre particulier. À côté de cela, je vous conseille un 2e ouvrage qui s'intitule Lire les images de cinéma de Laurent Julliet et Michel Marie aux éditions Larousse. Il y a de nombreuses éditions, peu importe celle que vous prendrez. Il est plus cher, il vaut dans les 27,90 €, 28 €. Et il est surtout important pour les 60 premières pages, puisque de manière à la fois simple et universitaire, Laurent Julliet et Michel Marie vous présentent tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut maîtriser pour se lancer dans l'analyse filmique. La suite de l'ouvrage vous présentera des exemples concrets d'analyse d'extraits de films de toutes les époques et de tous les genres. Ces exemples ont le mérite d'être très précis. Ils ont peut-être un inconvénient, c'est qu'ils insistent beaucoup sur la forme et peut-être pas suffisamment sur le sens global qu'il faut donner aux séquences analysées. En revanche, j'insiste sur ce point, les 61 premières pages sont absolument indispensables pour maîtriser l'analyse filmique. À côté de cela, évidemment, il y a quelques ouvrages qu'il faudrait que vous consultiez essentiellement pour les deux films que vous avez au programme, à savoir, d'une part, Un conte peut-il en cacher un autre, et d'autre part, La vallée des loups. Je vais commencer par La vallée des loups. Il s'agit d'un film qui semble plutôt documentaire, je dis bien plutôt, nous y reviendrons plus tard. Et pour approcher la question du documentaire, qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît, je vous conseille deux ouvrages parmi beaucoup d'autres. Un ouvrage édité par la BIFI, c'est-à-dire la Bibliothèque du film, en 2001, qui s'appelle « Filmer le réel, ressources sur le cinéma documentaire ». Cet ouvrage est très clair, il constitue une excellente introduction aux différents sous-genres du documentaire. En revanche, il est épuisé, donc vous pouvez le trouver sur Internet d'occasion assez facilement, j'ai vérifié cela. Et d'autre part, vous avez l'ouvrage « Le documentaire et ses faux-semblants » de François Ninet, qui est le père de l'acteur, aux éditions Klinksic en 2009 et qui a été réédité en 2013 et il est à 19,50 €. Cet ouvrage est encore disponible et il complète parfaitement l'autre en ce sens qu'il est divisé en petits chapitres qui posent chacun des questions bien particulières correspondant au documentaire. Par exemple, vous trouvez la distinction entre le vrai et le réel. Ce sont des notions qui ne sont pas aussi évidentes qu'il y paraît et qui pourtant, pour nous, sont souvent synonymes, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ces deux ouvrages pourront vous guider, bien entendu, surtout pour votre culture personnelle, peut-être moins pour vos élèves. Encore une fois, il s'agit pour moi de vous ouvrir des perspectives. D'autre part, en ce qui concerne le deuxième film au programme, à savoir Un conte peut-il en cacher un autre, vous avez là un film d'animation, je ne dis pas dessin animé parce que c'est beaucoup trop réducteur. On parle plutôt de film d'animation, puisque dans le film d'animation, on peut aussi avoir des films créés en 3D par image numérique. Et je vous conseille encore un ouvrage épuisé, mais à trouver d'occasion sur Internet, Le cinéma d'animation de Bernard Genin, aux éditions Cahiers du cinéma, Les Petits Cahiers. En moins de 80 pages, vous allez voir que le tour de la question est opéré de façon vraiment brillante par Bernard Genin, et vous y trouverez beaucoup de plaisir. D'autre part, pour aller beaucoup plus loin, vous avez le cinéma d'animation, technique, esthétique, imaginaire de Sébastien Denis aux éditions Armand Collin, qui a été réédité en 2017 au prix de 30 €. Et dans cet ouvrage-là, vous allez avoir une approche beaucoup plus approfondie, beaucoup plus ardue, reconnaissons-le, beaucoup plus universitaire, mais qui vous permettra, là encore, d'approfondir votre réflexion. Alors tous les prix que je vous indique sont des prix qui ont été vérifiés au mois d'octobre 2020, ils sont actualisés et tous les autres ouvrages qui sont répertoriés dans ma bibliographie qui compte quand même 3 pages sont tous actualisés au niveau des prix. Je vous indique d'ailleurs à chaque fois si l'ouvrage est disponible ou non ou si vous le trouvez sur Internet. D'une manière très générale, je vous conseille de recourir aux ouvrages qui sont en gras et vous pourrez vous constituer là une base documentaire sur le cinéma qui vous permettra d'être incollable, surtout si je puis dire. Il est évident, si vous voulez, que tout n'est pas du même domaine. Certains sont réservés au grand public, d'autres sont typiquement philosophiques. Je pense en particulier à la partie intitulée « Réflexions sur le cinéma » qui vous apportera beaucoup, mais qui nécessite pas mal de temps de réflexion. En particulier, je pense aux ouvrages de Gilles Deleuze, « L'image mouvement à l'image temps », qui sont encore de nos jours absolument fondamentaux, mais qui sont d'une grande difficulté et que je vous conseille d'aborder par petits fragments en recourant surtout à l'index de manière à ce que vous voyez, à partir de la liste des films que vous connaissez, les chapitres correspondants de Deleuze, et ce faisant, vous vous familiariserez petit à petit avec la pensée de Deleuze. Voilà. D'autre part, j'insiste sur le fait que vous avez quelques éléments concernant l'adaptation littéraire au cinéma, puisque avec Un conte peut en cacher un autre, nous avons ce problème qui est nettement posé par l'adaptation du recueil de contes de Roald Dahl, et vous trouverez aussi un chapitre intitulé Scénario qui vous permettra peut-être de réfléchir à la manière dont certains d'entre vous, je le sais, travaillent sur la notion de scénario avec leurs élèves, mais cela, je pense, se fait surtout au niveau de CM2 et de manière bien modeste. À partir de tous ces éléments-là, évidemment, je peux dire qu'aucun d'entre eux n'est absolument indispensable pour approcher les deux films qui sont à votre programme. Je tenais simplement, encore une fois, à vous donner quelques outils d'ordre universitaire et aussi pour vous apporter un peu de plaisir intellectuel. C'était donc le premier document que je viens de vous présenter là. Et maintenant, je vais vous aborder le document numéro 2 qui s'intitule La lecture filmique. Alors, ce document est issu de lectures diverses et vous allez y trouver beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Mais je voudrais cependant insister sur trois éléments qui me semblent fondamentaux. D'abord, la différence qu'il y a entre le texte littéraire et le texte filmique. On a souvent tendance à dire que le livre c'est mieux, surtout parce qu'il existe avant le film, et on a souvent tendance à dire que la littérature est pour l'esprit et le cinéma est pour le divertissement. Ce n'est pas totalement faux parce que le cinéma a longtemps été considéré et est encore considéré de nos jours avant tout comme un divertissement. En réalité, il faut comprendre qu'on a là, affaire à deux moyens d'expression différents, et que par voie de conséquence, dire que l'un est meilleur que l'autre est absolument absurde. Ce qu'il est important de noter, c'est que le texte littéraire est souvent orienté vers la réflexion, l'analyse psychologique, la description, la contemplation, alors qu'apparemment le texte filmique, et j'emploie le mot texte à bon escient, le texte filmique est action, c'est-à-dire que toutes les idées y sont transformées en actes plus qu'en parole. Effectivement, si on se borne à cette première distinction, on a tout de suite tendance à considérer que le texte littéraire est plus riche que le texte filmique. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que le texte filmique, à l'analyse, est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long à étudier que le texte littéraire. Pourquoi? Parce que le texte littéraire présente les éléments de manière successive. Et même si les mots présentent de nombreuses strates, on peut penser par exemple à un texte de Mallarmé qui est extrêmement complexe dans le recours qu'il fait aux différentes valeurs étymologiques d'un seul mot, eh bien le texte littéraire, encore une fois, donne les éléments de manière chronologique. Alors que le texte filmique, lui, présente toutes sortes d'éléments en même temps, c'est-à-dire qu'en juxtaposant l'image, mais aussi le son, les bruits, les paroles, la musique, on aboutit à une complexité d'éléments qui sont livrés immédiatement au spectateur sans qu'il ait véritablement le temps de s'y arrêter, mais qui pénètrent au plus profond de lui-même, à son insu en quelque sorte. Et de ce fait, quand on veut faire une analyse filmique, on est obligé de tenir compte de tous ces éléments, et très rapidement, on s'aperçoit que si on veut les analyser tous, c'est absolument impossible, et l'on est obligé, comme en analyse littéraire, d'opérer une sélection dans ce que l'on veut faire ressortir aux élèves. C'était le premier point que je voulais absolument aborder avec vous. De ce fait, quand nous allons étudier un conte peut-il en cacher un autre, il ne sera aucunement de question de montrer que Roald Dahl est supérieur au film ou l'inverse, mais simplement de rapprocher ces deux textes pour montrer ce qu'ils ont de commun et ce qu'ils ont de différent, et finalement en quoi ils s'enrichissent l'un l'autre. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la terminologie. Il faut savoir que la terminologie dans l'analyse filmique est assez délicate parce qu'elle se scinde souvent en deux chapelles. il y a d'une part les universitaires et les penseurs, et il y a d'autres, les penseurs entre guillemets, bien entendu, et il y a d'autre part les techniciens, les professionnels du cinéma, pour lesquels le même mot n'a pas toujours exactement la même signification. Et il y a à ce propos un exemple bien précis qu'il faut que je vous explique maintenant parce que j'ai mis plusieurs années moi-même à le comprendre et je n'en ai trouvé l'explication que dans une note en bas de page dans un ouvrage d'analyse du scénario. Il s'agit de la question concernant le son. Je m'explique. Si vous voyez à l'image un son dont l'origine est présente, à ce moment-là, on va dire que le son est « in », c'est-à-dire qu'on le voit à l'image. Si, en revanche, le son provient du film mais n'est pas présent à l'image, on filme par exemple quelqu'un qui est assis sur une chaise et on entend, mais on entend seulement frapper à une porte, on comprend que le personnage assis à sa chaise perçoit l'arrivée de quelqu'un. À ce moment-là, on va dire que le son est hors champ. Et puis, on peut ajouter une troisième catégorie de sons, c'est par exemple la musique qui accompagne une séquence de film. Si l'on voit des cow-boys chevauchés et que l'on entend une musique d'orchestre accompagner cette chevauchée, on comprend bien que l'orchestre n'est pas présent à l'écran et que cette musique a été ajoutée par-dessus, pour souligner, pour soutenir l'action. Et à ce moment-là, cette musique n'est plus hors champ, mais elle est carrément off, c'est-à-dire off-screen, en dehors de l'écran, ajouté à l'écran. Il en va de même parfois dans ce qu'on appelle la voix off, c'est-à-dire la voix d'un commentateur qui a été ajouté pour expliquer ce que l'on voit à l'image, le commentateur ne faisant pas forcément partie de l'univers filmique. Cette terminologie « in », hors champ ou off, est très facile à retenir, à utiliser, sauf qu'elle est d'origine française. C'est la terminologie qu'utilise Michel Chion, qui est un universitaire, un musicien et un cinéaste. Mais cette terminologie n'a rien à voir avec la terminologie anglo-saxonne, qui est celle que partagent tous les professionnels. Et à ce moment-là, on aboutit à quelque chose de tout à fait différent. C'est que d'une part, le « in » n'est pas employé, puisque par définition, pour les anglo-saxons, les professionnels, le son est « in ». D'autre part, ce que Michel Chion appelle le « hors-champ » devient à ce moment-là le « off », le « off-screen ». Et vous voyez évidemment la difficulté qui se pose quand on peut avoir une confusion qui s'opère entre la terminologie française et la terminologie anglo-saxonne. Et enfin, toujours pour les professionnels, ce que Michel Chion appelle « off » devient « over » pour « voice-over », la voix par-dessus, donc la musique ou la voix qui vient couvrir l'image. Alors au bout du compte, peu importe la terminologie que vous employez, l'une et l'autre est bonne ou sont bonnes, comme vous voulez, mais il ne faut surtout pas les mélanger, et surtout il faut comprendre, selon le livre que vous lisez, à quelle utilisation se réfère l'auteur du livre. Ceci pour éviter certaines confusions qui, je vous l'avoue, m'ont moi-même gêné pendant de nombreuses années et que de nombreuses personnes que j'ai interrogées n'ont pas été à même de m'éclairer. Donc, in, off, hors champ, pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple. À la limite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces mots dans une classe de primaire, mais il est bon que vous, en tant qu'adulte, vous les maîtrisiez. Et puis, il y a aussi, je dirais, troisième élément que je veux analyser avec vous pour ce deuxième document, c'est la liste des différents éléments qu'il faut retenir quand on analyse une séquence. Ils sont multiples, ces éléments, et vous ne pouvez pas, encore une fois, j'insiste, tous les analyser. En revanche, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de répartir le travail avec vos élèves en demandant à un groupe simplement d'écouter et de dire ce qu'il a entendu, les paroles, la musique, la tonalité de la musique, ou tout simplement les bruits. Ces bruits sont-ils naturels? Sont-ils rapportés? Sont-ils amplifiés? Ce sont des choses que même des enfants très jeunes peuvent ressentir, parce que le son est d'abord avant tout émotion, au sens étymologique, ce qui nous met en mouvement. Et puis, vous pouvez demander à d'autres enfants de dire simplement ce qu'ils ont vu et de vous faire remarquer quelques éléments concernant les mouvements des personnages ou la fixité des personnages. Et puis, vous pouvez demander à un troisième groupe de travailler sur les couleurs ou au contraire sur la lumière. Est-ce que la scène est claire? Est-ce qu'elle est obscure? Pourquoi? Ce sont des choses toutes simples, mais qui, au bout du compte, vont sensibiliser vos élèves, aussi bien à l'analyse filmique, bien entendu, mais aussi à l'analyse littéraire, puisque vous leur demandez finalement simplement de recourir à leur sens, à leur perception. C'était absolument ce qu'il me fallait vous faire voir dans ce deuxième document intitulé, je le répète, « La lecture filmique ». Le troisième document que vous avez toujours dans votre premier corpus, pardon, c'est les termes techniques, document 3, intitulé « Termes techniques à dominer ». Je ne vais pas, évidemment, les passer tous en revue. Il n'est absolument pas nécessaire de les maîtriser tous, tant s'en faut, mais vous trouverez dans la bibliographie le titre de deux ouvrages qui vous permettront de donner un sens plus précis à chacun de ces textes. Je n'ai pas ajouté dans mon envoi, évidemment, l'analyse de chacun de ces mots parce que je ne voulais pas alourdir, mes documents, mais si vous le souhaitez, je peux vous envoyer la correction, entre guillemets, de tous ces textes techniques. Et puis, vous avez le document qui est intitulé « Fixité ou mouvement de caméra ». C'est le document numéro 4, intitulé « Document numéro 2 par rapport au document terme technique ». Je vais, en revanche, insister davantage sur ce document-ci, parce que je crois qu'il y a quelques confusions qui s'opèrent encore dans l'esprit de la plupart des collègues. Excusez-moi si je suis un peu lourd en revenant sur ce point-là, mais l'expérience m'a montré dans différents stages que vous étiez parfois demandeur. Donc n'hésitez pas à avancer un peu si ce que je vous dis maintenant vous semble inutile. Il y a d'abord le problème du mouvement de la caméra. Vous savez qu'une caméra peut bouger, être portée, avancée, reculée, pivotée. Mais traditionnellement, si vous voulez, on distingue surtout le travelling et le panoramique. Et souvent, on confond les deux. Un travelling, c'est le fait que la caméra est montée sur un chariot ou portée, par exemple, à l'épaule par le cadreur. Et la caméra, ainsi montée sur un chariot ou portée, peut avancer, reculer, suivre un personnage de manière latérale ou de manière oblique, et à ce moment-là, on va dire qu'elle opère un travelling. Alors que, à l'inverse, la caméra peut être fixée sur un pied, le pied peut ne pas bouger, mais la caméra, elle, étant fixée sur ce pied, mais étant mobile parce qu'elle est sur une rotule, peut à ce moment-là opérer, je dirais, un mouvement de gauche à droite ou de haut en bas. Si elle opère un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche en pivotant sur sa rotule, elle opère un panoramique horizontal. Si en revanche, elle pivote de haut en bas ou de bas en haut, elle opère un panoramique vertical. Alors, ceci fait qu'on peut tout à fait conjuguer un travelling et un panoramique. Par exemple, la caméra montée sur un chariot suit un personnage latéralement, on a un travelling latéral, mais tout d'un coup le personnage avance plus vite que la caméra, et pour le suivre, elle est obligée, en plus de son travelling, d'opérer un mouvement de panoramique. Elle va opérer à ce moment-là, par exemple, un panoramique gauche-droite. Et donc, nous avons un panneau travelling qui est d'abord latéral puis horizontal, et ce panneau travelling est dit d'accompagnement. Voilà un exemple simple. Alors, il est évident, si vous voulez, qu'un plan, s'il est fixe, s'il ne bouge pas, si la caméra est fixe, ou si au contraire la caméra bouge, va opérer chez le spectateur un sentiment assez différent. Et en général, on utilise des travelling pour les séquences des scènes d'action. Mais on peut aussi parfois opérer des travelling absolument fluides et très lents, et le spectateur ne pas s'en apercevoir. Et à ce moment-là, il faut se poser la question de savoir à quoi correspond ce mouvement de caméra. Alors, il est évident que nous abordons maintenant un deuxième élément, qui est le problème de l'angle de prise de vue. C'est ce qu'on appelle tout en bas de la page la place de la caméra par rapport à l'objet filmé. Et cette place de la caméra par rapport à l'objet filmé nous amène à étudier deux choses, l'angle de prise de vue dont je viens de vous parler, et ensuite la taille du personnage ou de l'objet filmé dans l'image. Alors prenons d'abord la place de la caméra par rapport à l'objet filmé. Si vous filmez, par exemple, toute votre classe, tous vos élèves dans l'ensemble, vous allez avoir un plan général ou de grand ensemble. Si vous décidez de filmer seulement une partie de votre classe, vous allez avoir un plan de demi-ensemble. Mais si vous ne filmez qu'un de vos élèves et complètement en pied, à ce moment-là, vous allez avoir un personnage filmé en plan moyen. Alors que si vous filmez votre élève en dessous du genou, vous allez avoir un plan américain. Pourquoi américain ? Parce que c'est un plan qui a été généralisé par la télévision aux États-Unis, et parfois aussi, dit-on, parce que c'est le plan qui permet de filmer le personnage à la ceinture et les coltes qui pendent au-dessous de la ceinture. Donc un plan typique du western. Le plan italien, je n'en parlerai pas parce que c'est une terminologie qui n'est plus guère utilisée maintenant. Et puis, vous avez le plan rapproché, qu'on peut appeler plan rapproché taille ou plan rapproché poitrine. Chez les professionnels, on va dire PRP, plan rapproché poitrine, ou PRT, plan rapproché taille. Puis le gros plan pour le visage, ou un très gros plan sur, par exemple, simplement les yeux, le nez, ou sur une partie du corps, la main. Et si on fait un très gros plan sur un objet, à ce moment-là, on va parler d'insert. Alors, vous voyez que vous pouvez tout à fait coupler un mouvement de caméra avec un plan bien particulier. Et à ce moment-là, ce qu'il faut voir, c'est que le plan va évoluer au fur et à mesure que la caméra va se déplacer. Vous filmez par exemple un de vos élèves en gros plan, et sans couper la caméra, en laissant votre caméra filmer, à ce moment-là, vous reculez tout doucement et vous allez faire apparaître dans votre champ le visage des camarades de votre élève, puis toute la classe, et vous allez passer insensiblement du visage de l'élève, donc d'un gros plan, à l'ensemble de la classe, à un plan d'ensemble. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous allez inscrire petit à petit votre élève dans un ensemble, alors que si vous avez procédé à l'inverse, vous allez isoler votre élève pour montrer par exemple que c'est lui le personnage principal de la séquence que vous filmez, ou tout simplement qu'il se sent bien seul au milieu d'une bande de personnages qui ne lui correspondent pas. D'autre part, bien entendu, vous avez, je l'ai annoncé mais j'y reviens, le problème de la position de la caméra en fonction du personnage qu'elle filme, c'est-à-dire par rapport au fait qu'elle est peut-être de face ou en haut ou en bas par rapport à lui. Si elle fait une prise de vue de face, on va dire qu'il s'agit d'une prise de vue frontale. À ce moment-là, elle met le personnage à égalité avec le spectateur. En revanche, si la caméra est placée plus haut que le personnage, elle va opérer une plongée et ceci va avoir pour effet de diminuer le personnage. Alors que si la caméra est en dessous du personnage, on va avoir affaire à une contre-plongée et cela va rehausser le personnage, lui donner de l'importance ou de la dignité. En apparence, vous savez que toute règle est faite pour être en quelque sorte oubliée et il est tout à fait possible que vous filmiez un personnage en pied dans un premier temps pour le rehausser, mais si vous le montrez s'effondrer sur le sol, eh bien vous allez créer à ce moment-là, au contraire, l'impression que c'est la terre qui l'a attirée à elle et que du coup le personnage n'avait qu'une supériorité provisoire. Alors vous voyez que tous ces éléments conjugués, mouvement de caméra, plongée, contre-plongée, prise de vue frontale, et puis échelle de plan, c'est-à-dire plan général, plan d'ensemble, plan moyen, plan américain, etc., permettent de créer toutes sortes d'impressions qui se conjuguent, s'opposent, évoluent, et parfois dans un seul et même plan. Et pour terminer, je veux insister sur l'ambiguïté du mot « plan ». Vous avez vu que jusqu'à présent, j'ai utilisé le mot « plan » avec pour sens « gros plan »,« plan moyen », etc. Mais le mot « plan » peut avoir une autre signification qui apparaît dans un autre document de votre dossier, c'est que le mot « plan », il désigne tout simplement la durée de ce que vous voyez entre le moment où on dit « moteur » et le moment où on dit « couper ». En d'autres termes, vous pouvez avoir sur, par exemple, une durée de 30 secondes, une vingtaine de plans comme dans une publicité, c'est-à-dire que vous avez à l'image une succession de plans très très brutal qui vous donne une impression de vertige, ou au contraire, vous pouvez en avoir sur 30 secondes, des fois plusieurs minutes, et maintenant sur la durée d'un film complet, un plan unique puisque vous aurez l'impression de suivre le personnage sans qu'il n'y ait aucune coupure à l'écran. Et à ce moment-là, on parle de plan séquence. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis dans le document numéro 5 une longue mise au point qui s'appelle « Le cadre, le plan » pour y voir plus clair. Et je vous laisserai le soin de lire ce document parce que sinon ça serait trop long pour moi. Mais j'essaye de illustrer pour vous les différentes significations que peuvent avoir ces mots de cadre et de plan et en même temps de vous montrer comment ils peuvent influer sur l'analyse que vous allez opérer de manière tout à fait modeste avec vos élèves. Encore une fois, tous ces documents sont pour nous, enseignants, et pas pour les enfants. Mais je crois que gros plan, plan moyen, plongée, contre-plongée, travelling panoramique, ce sont des termes simples auxquels vous pouvez habituer vos élèves et ils n'éprouveront aucune difficulté pour les maîtriser. Vous serez même étonné de voir combien, parfois, ils sont plus à l'aise que nous dans ce genre de choses. Enfin, le tout dernier document s'intitule « Bruit, son, musique au cinéma ». Vous y trouverez une reprise de ce que je vous ai dit sur « in, off, hors champ », mais vous aurez aussi une réflexion plus générale sur le rôle du son et plus généralement de la musique au cinéma, avec la question posée « Faut-il de la musique au cinéma ou non ?» Certains disent que la musique permet d'ouvrir la réflexion, permet d'élargir l'espace, permet d'agrandir les émotions. D'autres disent que la musique est une manipulation du spectateur et une sorte de pléonasme et de redondance. En réalité, ils ont à la fois tort et ils ont à la fois raison tous les deux. Tout dépend du cinéaste et de la manière dont il conçoit le travail sur le son. Michael Haneke ne met aucune musique dans ses films, Sergio Leone en met énormément, chacun son univers, chacun ses raisons artistiques, et aucun des deux ne prétend détenir une réalité quelconque. En fait, la musique, le son, les mouvements de caméra ne sont que des outils qui contribuent à la création de l'œuvre artistique, ce qui n'empêche pas que les techniciens qui filment, les cadreurs, les chefs opérateurs, les musiciens sont eux-mêmes finalement des artistes et on sait qu'il y a énormément de discussions à l'heure actuelle pour savoir qui est l'auteur d'un film. Je terminerai cette présentation globale du dossier par une réflexion générale. C'est que à la suite des cahiers du cinéma, à la suite des critiques des cahiers du cinéma, en particulier François Truffaut et Jean-Luc Godard, on a créé à la fin des années 50 et au début des années 60 la notion d'auteur. Et selon la revendication de François Truffaut, l'auteur, c'est le cinéaste. Ça n'est pas le scénariste, ça n'est pas le dialoguiste, ça n'est pas un technicien quelconque, ça n'est même pas le romancier dont on a adapté l'œuvre à l'écran. C'est le réalisateur. En réalité, pour les Américains, la notion d'auteur n'existe pas réellement, même si de grands cinéastes comme Eastwood, Spielberg, Scorsese revendiquent cette notion et sont, je dirais, reconnaissants à la France d'avoir mis en avant cette politique des auteurs. Ils n'adoptent pas vraiment la notion d'auteur, mais ils apprécient d'être reconnus comme de grands réalisateurs. Aux États-Unis, donc, la notion d'auteur cède le pas à une notion d'équipe. Et il faut savoir que ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire le droit de montage final, s'il est en général, je dis bien en général, ce n'est pas toujours le cas, tant s'en faut, réservé aux réalisateurs en France, eh bien aux États-Unis, il appartient aux producteurs. D'ailleurs, regardez la cérémonie des Oscars, quand on donne le prix du meilleur film, c'est le producteur qui vient chercher le prix, ça n'est pas le réalisateur. Alors il y a toutes sortes évidemment d'éléments intermédiaires entre ces deux notions radicalement opposées. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que à l'heure actuelle, on considère plutôt le réalisateur comme un chef d'orchestre, comme un chef d'équipe, qui est évidemment peut-être l'auteur du film, mais qui ne parviendrait pas à réaliser son œuvre sans l'aide d'autres artistes que lui. Voilà. Donc, ceci pour ouvrir la réflexion. Je ne prétends pas du tout vous avoir délivré sur ce dernier point une vérité absolue. Je vous dis simplement que cette notion est fortement discutée et fortement en évolution. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous souhaite donc un bon parcours dans la suite du document. N'hésitez pas à revenir vers moi, comme on dit maintenant. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais bon. Et vous invite maintenant à entrer dans une présentation générale qui sera beaucoup plus courte des deux films. Je voudrais, et ce sera ma deuxième intervention orale, essayer de vous montrer très très rapidement en quoi les deux films se recoupent et en quoi vous pouvez les faire dialoguer entre eux. Je vous dis à tout de suite. Merci.